Ça,
c'est jazz. Bebop,
free jazz,
jazz rock,
big band,
hard bop,
ethno jazz,
swing,
jazz manouche,
jazz fusion,
bossa nova,
cool jazz,
jazz vocal,
ça c'est jazz,
ça c'est jazz. Bonsoir.
Salut à tous, bienvenue sur Radio Saint-Ave dans Ça c'est jazz.
Ça c'est jazz. Ce soir, émission un peu spéciale. Et un peu pas très gay, malheureusement. Enfin, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit pas triste. Mais bon, le monde du jazz, puis je crois que le monde en général, et particulièrement certainement sa famille, ses amis, tout ça, est endeuillé. Parce qu'on a perdu un grand monsieur. Vraiment grand, grand musicien, une très belle personne, enfin...
On voit quelqu'un de très important dans la musique en France,
ouais,
Didier vraiment, Lockwood. Vraiment.
Didier Lockwood, qui nous a quittés subitement. Et...
Un infarct, apparemment, ouais. À 62 ans.
Voilà. À 62 ans, jeune, et en pleine... Enfin, il avait prévu encore plein de concerts, plein de choses à faire.
Alors, on vous avait promis pour cette semaine de refaire une émission sur les jazz latinos, qu'on avait fait le mois dernier. Et on s'est dit qu'on pouvait pas laisser passer ça, parce que quand même c'est un événement...
Trop important.
Ouais. Qui touche, je pense, plein de milieux musicaux, et aussi plein de tranches d'âge, parce qu'en fait il y a quand même pas mal d'années qui tournent, il a fait des centaines d'albums, enfin c'est, il a une
énormément,
discographie
ouais,
énorme,
énormément joué, ouais.
Et ça touche pas mal de monde, donc on s'est dit on peut pas rater ça. On vous refera une émission latino une autre fois.
Hein, oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, ça touche le monde du jazz, ça touche le monde de la musique classique, ça touche le monde de l'éducation musicale, parce qu'il était super impliqué, il a monté une vraie super école de musique jazz à Damaris Lélis, qui marche très bien, qui a formé des tas de gens, des tas de jeunes.
Oui, et puis avec une pédagogie...
Avec une pédagogie
très ouverte.
Très intéressante, très ouverte, oui, bien sûr. D'ailleurs, il paraît qu'il a été... Enfin, c'est pas qu'il paraît, mais non. Il a été chargé par le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle en 2005 par les ministres de la Culture et de l'Éducation nationale de faire un rapport concernant l'éducation musicale en France. Et puis... Ça a été assez mal reçu parce qu'il a dit que c'était très mal fait, parce que c'était trop théorique, c'était trop écrit, alors que la musique, ça s'apprend aussi par l'oralité, par le jeu, par le son, enfin, voilà.
Ben oui, lui, il part du principe un peu qu'on n'apprend pas à écrire avant de parler.
Exactement.
Donc on apprendra à écrire la musique avant de savoir en jouer, quoi.
C'est absolument. Super logique. C'est super logique, et puis je crois qu'il a démontré que ça marchait bien, quoi.
Oui, c'est clair, ouais. Du coup, on vous a fait une petite sélection de quelques morceaux. Alors, il est évident que le coup de une discographie énorme. Donc, on a essayé de faire quelque chose un petit peu chronologique.
Oui, un peu, ouais.
Pour découvrir un peu ces univers. On
va
commencer par un peu le début.
Ça va être difficile de passer toutes les époques, parce que sinon, il nous faudrait là aussi plusieurs émissions.
Ouais, ouais.
Ben, on va commencer au moment où, en fait, il refuse de rentrer au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, parce qu'on lui fait une proposition, un groupe de musique très bizarre.
Ah oui, bah c'est un peu la fleur du jazz, comment dire, jazz fusion, magma.
Voilà, Magma, qui invente un langage, qui invente un style de musique, enfin, qui sera très influent dans beaucoup de domaines.
Comme leader,
Christian Vander,
le batteur.
Claude Bosquise, enfin beaucoup de...
C'est tout un univers, hein. Magma, ils ont inventé un langage...
Tu sais quoi, on va faire comme Didier, on va pas trop en parler, on va écouter du Magma, un petit bout.
Un petit bout de Magma.
Voilà, c'était pour vous donner une petite idée, un petit shot couleur de Magma.
Du climat, ouais.
Parce que les morceaux de Magma, ils durent au minimum 27, 28, 30 minutes, donc c'était un peu compliqué de tout passer.
Donc là, cette époque-là, il est tout jeune, hein, il a quoi, un petit 25 ans par là?
Ouais, hein,
à peine,
je crois 20,
et
21,
Et là, il envoie comme un malade dans ce groupe de jazz rock.
À redécouvrir Magma, faut écouter, c'est intéressant. Et puis, c'est tout de suite après qu'il est remarqué par Grappelli, et... qu'il est carrément invité aux États-Unis par le grand pianiste Dave Brubeck.
Ouais.
Et ben là commence une carrière solo assez époustouflante.
Et là, il va aux États-Unis, il enregistre avec quelques pointures.
Ah bah oui, on va dire NHOP.
Ouais, Nils Henning, Hansen Pedersen, le grand contrebassiste.
Tony Williams à la batterie.
Tony Williams, il faut savoir que Tony Williams, c'est le petit génie qui a déboulé chez Miles à 16 ans.
Ah oui.
À l'époque, il avait 16 ans comme batteur, il rentre chez Miles. Le problème principal, c'est qu'il ne pouvait pas rentrer dans les bars pour jouer, il était trop jeune.
Bon, petite anecdote concernant Lockwood. En fait, Didier Lockwood, quand il part enregistrer cet album, il y a Christian Vander, donc le batteur de Magma, qui lui dit « Fais gaffe, Tony Williams, c'est un petit plaisantin, mais qui rigole pas toujours, et il va essayer de te planter. Donc tu suis pas le jeu de son charlet, tu suis son drive de cymbale, parce qu'il va essayer de te planter avec le charlet. » Lockwood, le sachant, suit les cymbales et pas le charlet, donc les morceaux se passent merveilleusement bien. Et à la fin, Tony Williams est obligé de lui dire « Great, man, great !» du style « J'ai pas réussi à te planter, tu dois être très fort !» et tout. Et donc là, ben voilà, Gordon Beck aussi au piano, qu'on avait oublié de citer, et reprise de Coltrane, « Giant Steps ».
Oui, c'était un violon qui jouait Giant Steps. Giant Steps, tout le monde sait qui c'est.
Coltrane.
Et ouais, Dieu
était
toujours là.
J'ai failli dire Dieu. C'était pas possible qu'il n'y ait pas un Coltrane.
Et on peut pas faire autrement.
Non, en plus, il faut savoir que Christian Vander, c'est un grand, grand, grand admirateur de Coltrane, ouais, puisque son professeur de batterie, c'était monsieur Elvin Jones.
Et oui, donc, c'est le batteur de Coltrane.
Voilà.
Dans ce qu'on vient d'entendre, monsieur Lockwood, qui vient donc de nous quitter, comme on le disait il y a un instant, malheureusement, il a 23 ans.
Il a 23 ans
quand il joue avec toutes les grandes pointures.
Avec Tony Williams, Gordon Beck, NHOP, le morceau suivant, il y aura Ian Hammer, Bob Malak, enfin c'est incroyable.
Ouais, non, c'est quand même quelqu'un d'incroyable, avec une technique extraordinaire, qui a couvert plein de domaines, et on va continuer un petit peu dans l'esprit un peu... c'est un fan de jazz rock, hein, quand même, il faut dire ce qu'il est.
Oui, bien sûr.
Et moi, je te propose qu'on continue avec le morceau suivant.
Un des morceeux qu'il a rendu célèbre, et qui est vraiment un morceau qu'on connaît, que vous avez certainement entendu, qui s'appelle Zebulon Dance. Donc Didier Lockwood, Ian Hammer, Bob Malak, Marc Perru, toute une clique d'artistes incroyables.
Du grand monde.
En live à Montreux en 1980. Zebulon Dance. Thank you. Zebulon Dance, et vous êtes toujours sur Radio Saint-Aff pour Ça c'est Jazz.
Eh oui, c'est une émission dédiée à Didier Lockwood.
À Didier Lockwood, oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué aussi Bruno, à un moment, il démarre son chorus en jouant pizzicato, juste avec les doigts, sans l'archer, il le faisait assez souvent, et il est très fort, parce que c'est très dur sur un violon ça aussi, le violon c'est un instrument difficile. Il a une justesse.
C'est ça, il a une justesse qui est phénoménale et on pourra l'entendre dans d'autres morceaux, même dans les sud-régus, une précision incroyable. Parce que Trégo, quand il joue, en fait, il a un pédalier énorme.
Des effets. Bah oui, c'est le roi du violon préparé, ce qu'on appelait le violon préparé. D'ailleurs, il avait écrit une pièce. Quand il était tout jeune, il avait écrit une pièce orchestrale, donc comme il a fait de la musique classique beaucoup, il a écrit une pièce orchestrale pour violon préparé.
C'est comme ça qu'il a eu son prix de conservatoire.
Ouais, c'est grâce à ça qu'il a eu son premier prix de conservatoire de Calais, enfin, truc extraordinaire. Et donc si on continue, en 83, ils fondent un groupe qu'il appelle Trio. Philippe Catherine.
Alors, Philippe Catherine, ne nous trompons pas, c'est pas l'espèce de rigolo qui chante des chansons complètement louftingues. C'est un guitariste
très
jazz,
très bon guitariste
excellent, qui a pas mal joué avec Chet Baker en trio. Il y a des albums superbes, Racine Fausse, Baker, Catherine, qui sont terribles. Et Escoudé derrière,
bien sûr.
Le grand guitariste français que tu connais. Ça fait un peu école, ce trio. Hein. Et Catherine Escoudé, il y a un album qui est très connu où ils sont tous les trois en salopette de peintre et sur le dos, l'un peint sur le dos de l'autre.
Le premier écrit un T sur le mur. Après, je crois que Philippe Catherine écrit un T, Escoudé écrit un R, Lockwood écrit un I.
Donc ils ont leur salopette marquée Trio, et c'est vraiment un album qui a fait un peu école à un moment donné.
Trio de cordes, quoi. Deux guitares et un violon, pas courant, quoi, au niveau de la musique.
Ouais, c'était assez nouveau et ça a vachement marché. Donc,
et puis vous allez voir, ça swing grave.
Ouais, allez, c'est parti.
Surtout Painpot. Eh ben, les amis cajuns, bonsoir. Ah, un truc folk, quoi. Terrible, ouais. Terrible.
Ah bah, il y a une culture. Hein.
Ouais, il y a une culture, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis là, je crois, bah, il a des racines, de toute façon, du côté des Anglais, du côté des Celtes. Et là, je trouve que ça s'entend. Mais bon, c'est génial, il s'est magnifié.
C'est un virtuose.
Terrible, quoi. Ouais, 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 vraiment. Puis les deux autres, c'est pas des manches non plus. Hein. Ouais. Enfin, même s'ils ont des manches de guitare, ils ont tous des manches. Et je ne te permets pas de rire, Bruno, comme ça, hein, s'il te plaît.
Il se frotte le manche.
Ouais. Oh. Voilà,
ça, c'est bon, ça. Voilà, bon. C'est avec bon, ça, c'était en 80 ans.
Ah bon. Didier, tu nous excuses, on se marre quand même. Parce que je pense que c'est ce qui te plairait de toute façon. Hein, quand on s'amuse et tout. Ouais, ben. Bah, ouais, puis après, donc, il prend son surnom. On le surnommait The Kid.
Ouais.
Les Américains l'ont surnommé The Kid, quoi. Le gamin, le gamin surdoué, le quoi.
Ouais, surdoué, je pense que c'était vraiment le cas, ouais, c'est clair. Quelques années après, il crée un groupe, enfin il intègre un groupe qui s'appelle Uzeb.
Uzeb, bien connu des fans de jazz rock, ouais. Uzeb, des pointures.
Ça a été le premier groupe jazz rock français, à part Magma, qui était quand même
canadien ouais, pas français, Uzeb, bon, enfin.
Et qui sonne grave, et ils ont démonté les scènes, quoi.
Ah bah oui, ça.
Et le père Lecoud est venu les rejoindre.
Ça paraissait assez logique, d'ailleurs.
Ouais. Donc, hein, Uzeb, c'était basse, batterie, guitare. Hein.
Ouais. Paul Brochu à la batterie, Cusson à la guitare, et surtout Alain Caron à la basse.
Oui, ouais.
Alain Caron à la basse.
C'est quelque chose, ouais.
Avec Lecoud. Et donc là, finalement, bah, je ne sais pas si c'est composé par lui, ce morceau-là, mais c'est... Oui, je crois. Mais c'est The Kid, justement. Ça s'appelle The Kid.
Ouais.
Donc, sur un album live, en plus, vous allez voir, ça joue très, très fort. We'll be right back. The Kid, Monsieur Didier Lockwood. Encore une fois, merveilleux. Et puis, bon, bien entouré, évidemment. Toujours, c'est, il a toujours été entouré, bien entouré.
Uzeb. Voilà. Et vous avez pu l'entendre, hein, il n'hésite pas à monter dans les suraigus avec une aisance de dingue, une justesse parfaite.
Il arrive à jouer avec les harmoniques en étant d'une parfaite justesse. Ouais, c'est dingue. Avec tout ce qu'on a écouté, on n'a pas entendu une note un tout petit peu à côté.
C'est parfait. Bon, après, c'est vrai qu'il aime bien les pédales. Il joue avec plein de choses. C'est assez génial, quoi.
On ne va pas lui reprocher. Ça fait du beau son.
Bah non.
Ouais. Et ben, un peu plus tard, retour à New York.
En 95,
rencontre avec Dave Kikoski, quel pianiste.
Ouais.
Un ami qui restera un grand ami pour lui, Mike Stern, de chez Miles, évidemment. À la basse, jeune homme à la basse, comment
Dave Holland, batterie de fou.
Donc,
Peter Erskine à la batterie.
Et sans oublier, au sax, monsieur Dave Liebman.
Ouais.
Donc l'album s'appelle New York Rendez-vous, 1995. Et le morceau, c'est toi qui le dis ou c'est moi?
Non, c'est un truc louche.
Juggling in Central Park.
Juggling.
Thank you. comme on dit souvent, ça c'est jazz.
Oui, carrément.
D'ailleurs, vous êtes en train d'écouter Ça c'est jazz, vous le savez, sur Radio Sainte.
Avec Tony qui nous fait.
Ouais, une technique d'enfer, une technique super. D'enfer, merci Tony.
Vive génial. Les bénévoles.
Ouais, vive les bénévoles, bravo. On va vous faire des contrats de bénévoles, vous allez voir, c'est nickel. Ouais, je disais ça parce qu'en plus, ça correspond à un moment où il a voulu aller à New York, donc l'album s'appelle New York
Round.
Non, pas Tony, Didier, monsieur Didier. Ouais, le coup de. On lui disait beaucoup, t'es très bon, t'es excellent, ouais, le roi du jazz rock. Puis à un moment, il a dû se dire, bon, et du jazz, je vais vous montrer que je sais faire du jazz. Enfin, vous montrer, je pense qu'il en avait envie aussi, parce que là, ça sent l'envie, ça sent le bonheur de jouer. Mais... Et là, il refait cet album qui est un album vraiment jazz, quoi. Acoustique, quasiment, enfin, pas de pédale, justement, avec Dave Liebman, enfin, il est tellement entouré, quoi.
C'est l'époque où il est très connu pour le jazz rock, vraiment, parce qu'il y a eu Zeb avant et tout ça. Et là, c'est vrai que c'est vraiment, ça sonne jazz, quoi.
Ça sonne jazz.
On a eu Dave Liebman au sax, hein, plus de jazz en meurt. Hein,
ouais, c'est, oui, c'est vrai.
Il joue pas que du violon.
Et non. Et ça, ça va être, je l'espère, une surprise. Enfin, pour nous, ça en a été
nous,
une.
Nous, ça en a été une, on savait pas.
Franchement. Ouais. Un album, donc, Roundabout Silence, de 1998. Et ben, le saxophone alto que vous allez entendre dans ce morceau, qui s'appelle Madiva, le morceau, eh ben, c'est de nouveau M. Didier Lockwood au sax. Et voilà, ma diva, Didier Lockwood.
Au saxophone.
Ouais, ça, franchement.
C'est un gars,
c'est chiant, hein. Ouais, c'est gens comme ça qui jouent bien de tout.
Des brimes.
Parce que c'est super beau. Et je suis à peu près persuadé, c'était une petite discussion qu'on avait avec Bruno hors micro, je suis à peu près sûr que les autres parties de ce qui a l'air d'être une guitare, c'est son violon en pizzicato.
Moi, je suis pas convaincu.
Mais bon. On fera des recherches et on vous tiendra au courant.
Ils disent qu'on chapelle.
Les querelles de chapelle, oui, exactement. On va rester dans les cordes avec une autre trouvaille.
Avec une harpiste.
Avec une autre trouvaille, ouais, avec une harpiste.
Isabelle Olivier. Un disque d'une harpiste Isabelle Olivier, un disque que j'ai découvert à la radio, d'ailleurs.
Qui s'appelle Petite et Grande.
Petite et Grande, ouais. C'est un disque qu'on a eu l'occasion de passer quelques fois. Enfin, moi, j'ai passé quelques morceaux déjà. De cet album qui est très beau.
Plein de belles
Elle est harpiste, donc, cette dame, Isabelle Olivier, elle a fait pas mal d'albums, en fait. Hein. Elle a aussi un fils pianiste et un autre trompettiste, si je ne m'abuse, je ne sais plus exactement. Mais elle a fait des albums avec eux aussi, en trio. Et là, c'est un morceau où Didier Lockwood est au violon.
Ouais.
Elle a la harpe. C'est aussi un morceau écrit par Didier Lockwood.
Et j'y trouve un petit côté, une espèce de pas de nostalgie, mais quelque chose qui est... C'est très beau, c'est peut-être un peu triste, bah, ça donnera une partie, un ton de correspondant à cette perte, qui nous fait quand même beaucoup de peine.
Oui, oui.
Ah si, malgré tout. Et il y a surtout quelque chose d'extraordinaire, franchement, à écouter. Tendez l'oreille, si vous le voulez bien. Il y a un toucher d'archer.
Ah, de jeu au
violon qui est absolument douceur, magnifique, hein, magnifique dans ce morceau, d'une douceur, d'un calme. Ouais. Puis bon, Isabelle Olivier avec ses nappes à l'arbre, c'est fabuleux. Donc, ça s'appelle Espace. Waouh.
Ah ouais, c'est beau, hein. C'est un album d'Isabelle Olivier,
artiste. D'une douceur.
Un très bel album, on trouve aussi Sébastien Texier, le fils d'Henri Texier, le contrebassiste, au saxophone.
Extraordinaire.
Un bel album. Moi, je vous conseille d'aller voir, vraiment, ça vaut le coup, quoi.
Puis ce toucher de violon vraiment extraordinaire qu'il a sur ce morceau, c'est
terrible. Il est terrible.
Et on continue. Bravo pour la stéréo.
Pas mal.
Avec du jazz manouche, parce qu'il faudrait rendre hommage aussi à celui qui a été un de ses grands maîtres, un de ses grands mentors.
Il avait deux maîtres, il le disait clairement. Hein,
maître
disait,
à jouer,
Stéphane Grappelli et Jean-Luc Ponty. Ouais. Jean-Luc Ponty, jazz rock aussi, en fait.
Jazz rock aussi,
grand violoniste,
Frank Zappa, Mahavishnu Orchestra, enfin beaucoup de choses.
Voilà, tout dit, on a dit ça.
Mais je crois que l'amitié et la rencontre avec Stéphane Grappelli a été capitale pour lui, vraiment. C'est ce qu'il a toujours dit, quoi. Cet amour du jeu, cet amour de
Oui, Grappelli l'a très vite reconnu comme un très très grand violiste. Grappelli, quand il a vu jouer le coude, il a fait ouh, aïe, d'où il sort le petit, là. C'était un peu ça.
On trouve d'ailleurs des vidéos de Lina où on les voit jouer ensemble. Enfin, si on arrive à la trouver, parce qu'elle est un peu difficile à trouver.
Ouais, c'est bon.
Où on les voit jouer ensemble, où on voit Grappelli qui se fend d'un sourire magnifique et le coude un peu humble, mais qui joue comme un fou déjà.
Si vous avez l'occasion de jeter un peu un œil sur quelques vidéos, on se rend compte que bien souvent, les gens qui jouent avec lui, ils sont un peu hallucinés, quoi.
Ben oui, puis vous savez, enfin, je le répète, mais on publie la playlist de chacun de nos... On publie la playlist de chacun de nos émissions, de chacune de nos émissions, et on met toujours le nom des albums, le titre des albums, en espérant que ça vous encouragera à essayer de les écouter, essayer de trouver tout ça pour aller un peu plus loin que ce qu'on vous présente. Nous, on peut faire qu'un aperçu, en réalité.
Oui. N'hésitez pas, en tout cas, par mail, à nous demander des trucs, des références d'albums, des choses, des questions. Allez-y, faites-le. Avec plaisir, nous, on se régale.
Donc du jazz manouche, sur un album d'ailleurs qui s'appelle Jazz Manouche, qui est une compilation avec des tas de gens. On n'a pas réussi à trouver vraiment qui joue avec lui sur ce morceau.
Pas sur celui-là.
Pas sur celui-là. Sur
après, il joue avec plein. Rosenberg, etc. Tout le gratin du jazz manouche.
Les grands manouches. Puis là, c'est je crois clair. Que ça va nous réveiller un peu, le I Got Rhythm,
ouais.
C'est ça ? I Got Rhythm. Thank you. formidable.
Et ouais, il sait faire aussi les manouches. Hein.
Ouais, d'ailleurs, il faut préciser qu'il y a un ou deux albums, un qui s'appelle Tribute to Stéphane Grappelli et l'autre For Stéphane, je crois, un truc comme ça, qu'il faut absolument aller écouter parce qu'il montre qu'il était virtuose aussi dans le domaine du jazz manouche.
Oui, aucun problème.
Et je crois avec beaucoup d'amour de la part des manouches avec qui il a joué, qui l'ont toujours respecté comme le grand Stéphane, quoi, vraiment.
Complètement, avec, complètement. Ouais. Et puis, il y a eu la reconnaissance de Stéphane, donc bah, c'est quand même un sacré passeport dans le milieu.
Quand même.
Mais, donc on disait qu'il a fait plein de musiques différentes.
Puis
il ne faut pas oublier qu'il a été marié quand même.
Avec Caroline Casadesus,
la
fille de Jean-Claude Casadesus, grande soprano, bien sûr. Qu'il s'est remarié avec Patricia Petitbon, soprano coloratrice. Ouais, bah oui. Et justement, on parlait tout à l'heure de ne pas. Enfin, que vous n'hésitiez pas à nous demander des choses. Ou
voilà, justement.
Poser des questions, un truc.
Et on a reçu un petit mail de Daniel Azan. Alors, Daniel, si tu nous entends, merci. Merci pour la fidélité.
Oui, vraiment.
Daniel fait partie des personnes qui écoutent ça, c'est jazz depuis longtemps. Et qui nous fait des petits retours dans le temps, et c'est génial.
Voilà.
Et Daniel a fait des remarques au sujet, justement, de la vie de Didier Gould. Il est très peiné, lui aussi, de cette perte. Et il soulignait le fait qu'il a enregistré Didier Gould pour du classique.
Bien sûr.
Il a fait plusieurs choses. Évidemment, on va vous proposer un petit enregistrement où il jouait avec sa femme.
Oui, sa première.
La première Madame Katsu. Et il a aussi écrit des choses pour le classique.
Ah oui, mais ça, c'est un spectacle en plus qui avait tourné dans le monde entier pendant au moins 4 ans, qui s'appelle Le Jazz et la Diva, donc avec Caroline Casadesus, et les deux enfants de Caroline Casadesus, qu'on connaît maintenant pour d'autres contextes, Davidenko, trompettiste excellent,
et arrangeur.
Arrangeur, et Tomasenko aussi, qui est pianiste. Donc là, c'est la réunion de Didier Lockwood, Caroline Casadesus, Davidenko, Tomasenko, dans un morceau de Bach qui s'appelle...
Et merci à Daniel.
Merci, bien sûr. Erba Medisch, mein Gott. Thank you. Jean-Sébastien Bach. Par Didier Locou. Pardon. Caroline Casatsus, Davidenko, Thomasenko. Et petit clin d'œil donc à un auditeur fidèle.
Eh ben oui, et ami, tout à fait, oui. Et oui, Bach, hein, encore Bach, hein, on fait des liens comme ça. Hein.
Bah, ouais,
il y a eu une émission sur Bach il y a quelques temps, Bach et le jazz. Et ben voilà, on y revient.
On y revient, exactement.
Ouais, c'est quelque chose. On va finir cette émission.
Ouais, avec une de ses dernières formations.
Ouais.
C'est de, ça date de 2017, c'est un concert dans le, pendant le festival de jazz de Marciac,
ouais.
Où il y a participé énormément,
ouais.
Les gens de Marciac l'adoraient, il les a beaucoup aidés, je crois aussi, ouais. En faisant venir tout un tas de gens.
Il a joué la veille de son décès.
À l'organisation, hein. Il a joué la veille de son décès, ouais. Ouais. Et là, bah, c'est une formation, c'est une des dernières formations, enfin la dernière certainement, je pense, à mon avis, avec Dédé Ceccarelli à la batterie, Sylvain Luc à la guitare, et a remarqué un contrebassiste qui l'a suivi finalement dans pas mal d'expériences et
oui,
dans
oui.
pas mal de contextes, Diego Humbert.
Diego Humbert.
Très très grand bassiste.
Donc, la fine fleur du jazz français actuel.
Ah puis moi, il y a mon petit favori, Sylvain Luc.
Ah, Sylvain Luc, ouais.
Jeu de guitare absolument clair. Extraordinaire. Enfin, ça fait une belle équipe et vous allez voir
ouais,
une
joue,
super
joue.
Belle musique. Donc Didier Lockwood à Marciac en 2017. Thank you. Et voilà.
Et oui, voilà, c'était Didier Loucoute.
Quelle beauté, vraiment. Ouais. Quelle finesse de jeu, quelle qualité de jeu. Moi, je voudrais dire, Didier est parti. Monsieur Loucoute ouais. est parti, je ne le connaissais pas. Ça me permet de dire Didier, parce que ça devient presque un ami, tellement sa musique est belle, je trouve. Mais lui est parti. Mais écoutez sa musique. Qu'au moins, elle ne soit pas perdue, qu'on continue à l'écouter, qu'on continue à avoir ce plaisir qu'il aimait donner aux gens.
Hein. Elle ne se perdra pas.
Non, je ne pense pas. Non, mais...
En tout cas, merci à vous tous, chers auditeurs. Merci encore à toi, Denis, pour avoir passé cette heure avec nous. On vous encourage à l'écouter en podcast, à regarder d'autres émissions, à poser des questions et à venir à Radio Saint-Aff faire des émissions parce que c'est super rigolo, on se régale. Merci Radio Saint-Aff, merci à tous les gens qui font tout ce qu'il faut pour que ça marche.
Ouais, merci, ça c'est jazz.
Au mois prochain.